15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Nous sommes avec le père André Cab, qui est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Bonjour père Cab.
Bonjour.
Nous avons envie de vous entendre sur ce que j'intitulerais la croissance spirituelle de Bernadette. On a coutume de regarder Bernadette à travers la sainte, à travers finalement ce qu'elle a été à la fin de sa vie. Peut-être qu'on va regarder comment il y a eu une trajectoire dans sa vie et qui a conduit à sa croissance spirituelle. Bernadette, avant les apparitions de 1858, qu'est-ce qu'elle est au plan spirituel ? Croit-elle en Dieu ? Se nourrit-elle ? Est-elle dans une attente de ce point de vue ?
Oui, il est beau de constater que les saints ne sont pas nés dans une niche, effectivement, dans une niche d'église. Ils sont comme tout le monde. Hein. On raconte qu'au procès de béatification de Don Bosco, un aubergiste a témoigné, mais si j'avais su qu'il était saint, je ne l'aurais pas logé au sixième étage. C'est effectivement, le saint est quelqu'un comme nous, parce que c'est notre vocation à tous, et au ciel, il n'y aura que des saints si nous espérons aller au ciel. Il faut vraiment regarder comment vivent les saints, comment ils ont vécu, parce que c'est notre chemin. Et en même temps, ce chemin qui est toujours le chemin du Christ, le chemin de Jésus, être saint, c'est participer à la sainteté de Dieu. Une sainteté qu'il nous a révélée et communiquée en Jésus. Il nous a partagé sa vie. C'est partager la vie de Dieu, être saint, tout simplement. Et c'est, tout ce qui n'est pas saint, c'est de la pourriture. C'est ce qui n'est pas nous. Et notre vocation, c'est de découvrir et de mettre en œuvre ce que notre réponse à l'appel de Dieu. Nous découvrons petit à petit qui nous sommes, mais dans les yeux de Dieu. Sainte Agnès, Sainte Claire d'Assise disait à Sainte Agnès de Prague, « Regardez-vous dans le miroir de votre âme les yeux de Jésus crucifié. Voilà, » Marie ne se regardait pas à la glace, il n'y avait pas de glace à Nazareth. Hein. Et les saints ne se regardent pas à la glace, mais ils ont les yeux fixés vers celui qu'ils aiment, celui qui les aime, et ils découvrent peu à peu qui ils sont à la lumière de cet amour. Je ne suis pas un self-made man ou woman, je suis quelqu'un qui répond à un appel. Et le but de ma vie, c'est cela, c'est de répondre à cet appel. Je ne suis pas téléguidé, je suis appelé, guidé, accompagné. Mais le Seigneur a un bon GPS, et si je me trompe de route, il se réadaptera. Et il ne faut jamais avoir peur d'avoir raté sa vocation, comme on dit quelquefois. Non, ce que tu as raté, il va en tirer quelque chose de meilleur encore. Alors Bernadette prend place dans ce cadre plus général et de ce qu'est la sainteté. C'est la sainteté chrétienne. Donc, il ne faut pas imaginer un saint comme répondant à un modèle préétabli, abstrait, une théorie. Il ne répond même pas à un modèle particulier de quelqu'un. Quand Saint Ignace de Loyola s'est converti, il s'est converti en lisant des vies de saints, parce qu'il n'y avait que ça dans la maison où il était convalescent. Et il aurait voulu lire des romans de chevalerie, mais on n'en a pas trouvé, il a lu des vies de saints. Et il s'est rendu compte que quand il lisait des romans de chevalerie, il les fermait, puis c'était fini, il oubliait. Quand il lisait une vie de saint, il continuait à y penser. Il disait, mais si je faisais ce qu'a fait saint Dominique, si je faisais ce qu'a fait saint François, il n'a pas fait ce qu'a fait saint Dominique, il n'a pas fait ce qu'a fait saint François, il a fait saint Ignace. Le saint ne se reproduit pas par clonage. Donc il a une lumière qui le guide, et cette lumière, c'est cette lumière qui va le faire exister comme un être unique, unique en ce monde, unique aux yeux de Dieu. Donc Bernadette, c'est une sainteté unique qu'on va découvrir à travers une existence unique qui ressemblait à celle de beaucoup d'autres, mais qui a germé de manière toute particulière et qui nous incite à nous aussi, qui sommes des êtres ordinaires, bien à germer et fleurir de la manière toute particulière qui nous est proposée par le Seigneur. Alors,
lorsqu'elle naît en 1844, quels sont, selon vous, les ingrédients, si je puis me permettre cette expression, qui sont là, présents, ou qui vont se présenter pour peut-être la faire avancer ?
Alors, l'ingrédient est double. Ce qu'un ancien recteur du sanctuaire, le père Borde, appelait la vitamine de croissance. Il est... arrive dans une famille chrétienne et il est qu'elle arrive dans une famille unie, une famille où on s'aime. Le papa est arrivé dans ce moulin qui était loué par la famille de la maman. Mais malheureusement, la famille de la maman, dans les quelques mois ou années qui ont précédé 1844, a perdu le papa. Papa de Louise, la maman de Bernadette, est mort à 43 ans, je crois, d'un accident. Et il y avait à la maison que la maman et deux filles. Elle ne pouvait pas gérer le moulin, il fallait trouver un meunier. Et il y avait justement un garçon d'une trentaine d'années, 33, 34 ans, qui était un bon meunier et qui n'était pas marié, qui était disponible. Et elle pensait, la maman Castéro qui habitait dans ce moulin, le moulin de Bolly, que ce meunier ferait une bonne affaire et qu'il pourrait épouser son aîné, Bernarde. Et donc on a essayé de monter cette union. Et il s'est trouvé que François, le meunier en question, n'avait Dieu que pour la cadette, pour la jeune Louise, qui n'avait que 18 ans, hein, même pas à l'époque, au début. Alors à l'époque, on ne se choisissait pas de manière autoritaire, il fallait que le mariage soit fait, on ne se le faisait pas soi-même. Et pourtant, il fallait quand même qu'il manifeste ce qu'il ressentait. Alors, qu'a-t-il fait? Justement, il n'a rien fait, et il n'a pas répondu aux propositions qui lui étaient manifestement faites. Il est resté sur la réserve et il a fallu se rendre compte au bout de quelques mois qu'on n'y arriverait pas, que ce serait la cadette ou personne. Et donc on a célébré ce mariage de François, 36 ans, avec Louise, 18 ans. Mariage vraiment d'amour. Et on pourra d'ailleurs témoigner qu'ensuite, quand les affaires iront mal, qu'ils aboutiront à cette pièce sordide qu'on appelle le cachot, cette ancienne prison jugée insalubre pour les prisonniers, eh bien, alors qu'on les poussait, on les montait, comme nous aimons les combats de coqs, on les montait l'un contre l'autre, on disait à Louise, ton mari est un fainéant, il ne sait pas travailler, on disait à François, mais ta femme, elle boit. Et le cousin Sajous, qui habitait au-dessus, dit « Je n'ai jamais entendu le bruit d'une dispute, mais toujours le murmure de la prière. » Une famille unie, une famille où l'on croit. Quelle beauté de voir une famille qui est ouverte sur quelque chose qui la dépasse et qui ne se laisse donc pas enfermer ni dans son égoïsme parce que ça marche bien, ni dans sa peur parce que les affaires vont mal. Elle est ouverte. Ah. Une famille unie, ouverte à ce qui la dépasse, une famille où l'on croit en Dieu. La foi en Dieu, en Occident, nous paraît une option minoritaire parmi d'autres. Elle est la condition de respiration de notre âme. C'est, s'il n'y a pas la foi en Dieu, on s'étouffe. On ne va obliger personne à croire. Mais on ne peut que lui dire, écoute, essaie d'ouvrir ton cœur, essaie d'accueillir ce souffle qui t'est offert. La famille de Bernadette a eu beaucoup d'obstacles sur ce chemin. Dès le début, la petite Bernadette a dû être mise en nourrice parce que la maman s'est brûlée le sein. Donc elle est partie à Bartrès pour un petit bébé. On sent bien ce que peut signifier cette coupure, cet éloignement. Bartrès est à 4 km, mais c'était loin et ce n'était plus la maman. C'était vraiment un sevrage donc rapide, anticipé. Puis, revenu au moulin de Bolly, où tout allait bien, petit à petit, des obstacles se sont présentés sur le chemin. Il y a eu une épidémie de choléra. Bernadette en réchappera, mais elle restera malade toute sa vie. Elle aura un asthme en particulier qui la fera beaucoup souffrir. Elle mourra à 35 ans. Il y a eu de mauvaises récoltes. Le gouvernement a fait distribuer des sacs de farine, mais du coup, ça ne faisait pas de travail pour les meuniers. Et il y a eu, sans doute, une mauvaise gestion, vue d'un point de vue purement économique, mais au point de vue humain, Louise était très bienveillante. Elle dit, vous ne pouvez pas payer, mais vous paierez demain. Moyennant quoi, ils ont gardé les mauvais clients et laissé tomber les bons. Elle offrait un petit coup à boire, elle offrait un petit gâteau. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que de ce foyer, de ce Moulin, il n'était que locataire et qu'il ne pouvait pas payer le loyer. Donc ils ont dû partir plus loin et de moulin en moulin, ils ont échoué finalement à ce cachot où leur déménagement n'était pas compliqué à organiser. Ils n'avaient vraiment quasiment plus rien. Et il y avait tout de même 4 enfants, je crois que 2 étaient déjà morts en bas âge. Et un autre d'ailleurs mourra en 1865 avant que petit Justin, avant que Bernadette quitte Lourdes. Il aura une dizaine d'années, je pense. Donc à ce moment-là, ils sont 4, et papa, maman et les 4 enfants doivent trouver refuge donc, dans ce cachot où on installera tant bien que mal 3 lits pour les 6 qu'ils sont, avec une petite table, quelques tabourets et une fenêtre garnie de barreaux donnant sur une cour on a entassé du fumier. Donc on ne peut guère l'ouvrir et l'asthme de Bernadette, évidemment, ne s'en portera pas mieux. Alors on voit à la fois des conditions qui n'étaient pas au départ de misère. C'était comme une petite entreprise, le moulin. Mais à travers les difficultés extérieures et aussi le fait qu'à l'époque, on n'était pas quand même beaucoup aidé socialement, eh bien, ça a été la dégringolade. Mais ça n'a pas été la dégringolade du cœur, ça a été la dégringolade des finances et des moyens matériels pour vivre. On ne mangeait pas à sa faim et le papa, finalement, de meunier, était devenu brassier. Et brassier, c'est-à-dire qu'il louait ses bras à la journée et ses bras étaient moins payés que les jarrets d'un cheval. Ça met en lumière, bien sûr, les inégalités. Il s'est ajouter à cela l'accusation du boulanger Maison Grosse qui a vu disparaître 2 sacs de farine de sa boutique. Et François a été accusé. Bernadette a vu passer le papa entre 2 gendarmes tenant en main. Il était pieds nus. Les gendarmes tenaient en main ses brodequins pour vérifier les empreintes. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Et nous allons d'ailleurs pouvoir nous en rendre compte. Ça s'est terminé par un non-lieu. Le procureur citera finalement l'aveu du boulanger. C'est l'état de sa misère qui m'a fait croire qu'il pouvait être responsable de ce vol. Voilà. N'empêche que c'était fait. Le mal était fait d'une certaine manière. Mais de ce mal aussi, le Seigneur va pouvoir peut-être tirer quelque chose. Bernadette, en 1800, donc le vol a eu lieu en 1856, et en 57, Bernadette a dû repartir à Bartrès parce que vraiment son asthme ne supportait pas l'ambiance du cachot. On l'a renvoyée chez celle qui avait été sa nourrice, Marie Lagus, avec promesse. Elle avait 14 ans tout de même, 13 ans, avec promesse de suivre son catéchisme et de faire son éducation. Bernadette, en fait, était domestique de ferme. Alors on peut rêver Bernadette en train d'accompagner les moutons à la bergerie, mais il ne faut pas penser qu'elle ressemblait à Marie-Antoinette au petit Trianon. Elle ne s'amusait pas. Bon, elle n'était pas non plus maltraitée, mais pour ce qui est de son éducation, c'est sûr, c'était plutôt en panne, en particulier pour apprendre le catéchisme, toutes ces réponses abstraites qu'on lui demandait, elle n'arrivait pas à les sortir, et la pauvre Marie Lagus en venait à taper le catéchisme sur la tête pour essayer de le lui faire rentrer, mais c'était un moyen parfaitement inefficace. De plus, la famille se languissait un peu de Bernadette, notamment le papa qui regrettait sa fille aînée. Et donc, en janvier 1858, un dimanche où il vient la visiter, il dit qu'il va se décider à la ramener à Lourdes.
Père André Cap, merci. Nous allons marquer une pause dans cette émission. Juste après, nous reprenons le fil de la vie de Bernadette Soubirous, de retour à Lourdes, en janvier 1858, après son séjour à Bartrès, un village voisin. À tout de suite.
Spirit Sounds.
Allier l'utile à l'agréable avec de la musique chrétienne et un message pratique qui parle de notre relation avec Dieu, c'est ce que je vous propose dans Spirit Sounds.
Spirit Sounds avec Hervé Anneville.
Le dimanche à 12h30.
De passage à Lourdes.
Nous sommes en compagnie du père André Cab, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Dans le récit de la vie de Bernadette Soubirous, sa croissance spirituelle avant les apparitions de 1858, nous nous sommes arrêtés à la fin de son séjour à Bartrès. Bartrès, c'est un village voisin de Lourdes. Et maintenant, nous en sommes à son retour à Lourdes. Père André Cabe, quand précisément Bernadette Soubirous rentre-t-elle de Bartrès à Lourdes ?
Le jeudi 21 janvier 1858, que Bernadette prend le chemin de Lourdes pour ne plus revenir à Bartrès. Je souligne ce premier jeudi que je n'avais pas moi-même enregistré dans le calendrier des apparitions, mais ce qui va se passer ensuite va aller de jeudi en jeudi jusqu'au jeudi 3 juin où Bernadette fera sa première communion. Il y a là tout un chemin qui la tire de son exil, si l'on veut, exil symbolique à Bartrès, pour la faire communier à la vie de sa patrie pour laquelle elle est faite, hein, et qu'elle rejoindra ensuite, évidemment, quelques années plus tard, mais finalement assez jeune, quand elle sera partie à Nevers.
Donc, vous nous dites qu'elle connaît les rudiments de la foi au moment où elle revient de Bartrès, et elle entre dans le temps des apparitions avec ses rudiments, ni plus ni moins, ou au fond pas grand-chose.
Oui, des rudiments qui ne nous paraissent pas grand-chose, mais finalement c'est l'essentiel. Hein. Elle sait que Dieu existe, elle sait que cette vie terrestre est un passage, elle sait que si le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. Elle sait qu'elle est accompagnée. Non pas, il ne faut pas interpréter cette phrase comme si elle était une phrase de résignation, de soumission aveugle à un destin qui nous écrase. Elle est tout simplement la certitude d'un accompagnement. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est de commencer la journée avec un breakfast fantastique, hein ? Ce qu'il me faut, c'est la présence du papa et de la maman. Moi, j'ai connu un garçon à l'école de l'Évangile, précisément, qui avait été aimé par ses parents, mais qui était très, très occupé dans leur emploi. Ils lui laissaient un billet de 100 francs à l'époque sur la table pour qu'il puisse acheter ce dont il aurait besoin pour la journée. Et il avait tout ce qu'il lui fallait matériellement. Hein. Mais quand je l'ai connu ensuite, 10 ou 15 ans après, à l'école de l'Évangile, un jour, on leur avait demandé à ces jeunes de faire un petit devoir, de témoigner de quelque chose qu'ils avaient vécu et qui les marquait, et de faire 3-4 pages pour le partager aux autres. Et lui avait été converti, en tout cas touché par la foi, dans un sanctuaire où il avait rencontré la figure de Saint Joseph. Et comme la veille de remettre ses devoirs, il n'avait vraiment encore rien fait, je lui ai dit, écoute, mais tu peux dire quelque chose sur Saint Joseph que tu as aimé ? Et puis non, rien. Le soir, rien n'était venu. Enfin, je lui ai dit, écoute, viens, et on va faire quelque chose ensemble. Donc, voilà, je me suis mis à côté de lui, et nous avons écrit quelque chose à partir de l'expérience qu'il me partageait sur cette rencontre de Saint-Joseph qu'il avait vécue. Et je me suis rendu compte alors qu'il avait tout eu dans sa vie, sauf l'essentiel. Hein. Il lui avait manqué que simplement ce fait que le papa le prenne par l'épaule et lui fasse faire ses devoirs. Et il était tout seul. Hein. Ce n'était pas le cas de Bernadette. Bernadette savait que sa vie était accompagnée, voilà, qu'il y avait quelqu'un dans sa vie. Donc il y avait papa et maman, mais que papa et maman eux-mêmes n'étaient que des délégués de quelqu'un d'autre. Et le bon Dieu, pour Bernadette, c'était vraiment le bon Dieu. Et il y a cette présence invisible, mais essentielle, dans sa vie. Donc les rudiments de la foi, je crois qu'elle avait vraiment le cœur de la foi qui était en elle. Et elle savait les prières essentielles, elle les savait en France. Donc, est-ce qu'elle comprenait chaque mot ? C'était peut-être difficile, mais elle était capable de dire son chapelet. Et c'est précisément ainsi que les apparitions vont commencer.
Et justement, qu'apprend-elle durant les apparitions ? On a l'impression que parfois, c'est comme pour elle, comme une retraite qui va l'emmener jusqu'à la communion.
Oui, on peut dire cela. Hein. C'est une retraite où elle est rentrée par la petite porte. C'était pas prévu. Ce jour-là, le 11 février, donc 3 semaines après être revenue de Bartrès, le jeudi 11 février, à midi, Il n'y a pas grand-chose pour manger. C'est Bernadette qui fait la remarque, mais on pourrait aller chercher du bois. Et à ce moment-là passe une amie, Jeanne Balloum, qui connaît bien Toinette, la sœur de Bernadette. Et donc, toutes les deux veulent aller chercher du bois et puis tout ce qu'elles pourront trouver sur le chemin, qu'elles pourront peut-être revendre au chiffonnier pour avoir quelques légumes à mettre dans l'eau chaude de la soupe de midi. Et Bernadette, qui, elle, a fait remarquer qu'il n'y avait plus de bois, est aussi celle qui a envie d'aller chercher du bois. Mais la maman a très peur, il fait froid, et son asthme risque de se déclencher à nouveau. Donc, il lui faut arracher la permission, et c'est cette sortie, là aussi, elle est sortie de Bartrès, elle sort du cachot, et qui va l'amener, sans qu'elle le sache encore, donc sur ce chemin, en effet, d'une présence accompagnée, d'une retraite. Une retraite, c'est ce temps que nous prenons pour nous remettre entre les mains du Seigneur, essayer d'écouter sa voix et de suivre son chemin. Mais ce sera à travers sa liberté, toujours mobilisée, à travers son histoire, qui est à nouveau visitée. Ainsi, elles arrivent devant la prairie de M. Lafitte et elles voient un tas de bois au pied des arbres et elles ont envie de les ramasser. Mais Bernadette dit non, on nous prendrait pour des voleuses. Elle a en mémoire, évidemment, ce qui est arrivé à son papa l'année précédente. Donc, et c'est cette réflexion-là qui va du coup provoquer la continuation de la route si on allait voir l'endroit où le canal rejoint le Gave. Et c'est là, dans cet endroit où en effet le canal rejoint le Gave, c'est-à-dire une impasse, on ne peut pas aller plus loin, c'est là que tout va commencer, au moment où elle se trouve dans un lieu où symboliquement elle peut reconnaître une image de son existence qui est vouée à une impasse. À 14 ans, elle ne sait ni lire ni écrire, elle ne sait pas le français, elle n'a pas été au catéchisme, elle est excommuniée, pourrait-on dire, non pas par une volonté expresse de l'Église, bien sûr, ni de personne, mais concrètement, son état est celui-là. Elle est une marginale. Et c'est là que tout va commencer. Donc, ce que, oui, on peut appeler une retraite, mais qui est essentiellement un compagnonnage, quoi. Cette existence dont elle sait qu'elle est habitée, qu'elle est accompagnée, eh bien, elle va en faire l'expérience, et elle va faire l'expérience que justement, elle, qui est toujours celle qui dépend des autres, celle qui n'a rien dans son bagage, dans son héritage, sinon justement l'essentiel, eh bien, elle va pouvoir cet essentiel le faire mûrir et le partager. C'est une retraite pour Bernadette, mais Bernadette est instituée commissionnaire de l'invisible. Donc, qui sait combien de milliers, de millions de gens sont devenus des retraitants conduits par Bernadette. C'est l'histoire des apparitions et finalement l'histoire de ce chemin de vie nouvelle, mais qui donne sens, qui extrait de sa vie ancienne ce qui est l'essentiel et qui lui permet de le vivre, de le découvrir, de l'assumer et de le partager.
Père André Cab, merci. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci à vous pour cette émission sur Bernadette Soubirous et sa croissance spirituelle avant les apparitions et durant ce temps d'apparition de la Vierge Marie entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Si vous voulez aller plus avant dans la vie de Sainte Bernadette, n'hésitez pas à vous procurer par exemple l'ouvrage de l'auteur de référence sur la vie de Bernadette. Il s'agit de l'abbé Laurentin qui a écrit « La vie de Bernadette Soubirous ».
De passage à Lourdes.
Présence.
Il suffirait simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. D'où vient ma vie, certainement, pas du ciel.
Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à...
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Vivante Église, Paroles d'auteur, Immersion, la conférence de la semaine, des clés pour vivre,
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.